Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Génocide, une notion juridique à l'épreuve de l'histoire. Les choses n'ont pas besoin de mots pour exister ou pour se produire, ou alors nous les appelons différemment. Crime, massacre, extermination. Comment le mot génocide est-il né ? Pourquoi a-t-il semblé nécessaire à un moment donné de l'histoire de l'humanité de le forger ? Écoutons Raphaël Lemkin, juriste polonais qui a créé ce mot génocide en 1944.
Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion, de la nationalité.
Le cours de l'histoire.
Vincent Duclerc, bonjour.
Bonjour.
Merci vivement d'être venu dans le cours de l'histoire. Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Quand on entend ici Raphaël Lemkin, on a une définition très claire, des éléments très clairs sur le besoin de ce mot. Raphaël Lemkin, qui est-il ?
Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est un juriste polonais. Hein. Bon, il est né dans une famille juive. Toute sa famille va être détruite pendant l'extermination des Juifs d'Europe. Hein. Et puis, il va effectivement mener un combat extrêmement intéressant, hein, bien documenté. Bon, il y a pas mal d'historiens. Annette Becker, Jean-Louis Panet, qui a réédité donc son livre « Axis Rule in Occupied Europe » aux belles lettres. Mais c'est un personnage et un parcours assez exceptionnel, hein, parce que il va réussir finalement à avertir l'humanité du pire crime, effectivement, qui s'est réalisé à la fois dans l'Empire ottoman, hein, en 1915, et puis dans l'Europe nazie à partir de 1940. Hein. D'ailleurs, le crime de génocide est là. Il faut quand même saluer, je veux dire, cet exploit, en fait, d'avoir caractérisé ce que Churchill dira, un crime sans nom.
Un crime sans nom, parce que quand on l'écoute, Raphaël Lemkin, évoquant l'idée que il manquait ce mot. Ce mot manquait, mais pour couvrir des réalités qui existaient par le passé. Quel mot utilisait-on par le passé ?
Alors, par exemple, il y a eu beaucoup de réflexions sur, effectivement, le massacre des Arméniens. Hein. Dès 1896, Jaurès, dans les grands massacres arméniens, va parler d'une guerre d'extermination. Or, on le sait, notamment dans les doctrines juridiques, hein, Rousseau-Portalis notamment, la guerre n'a pas pour objectif l'extermination des civils. La guerre a pour objectif, effectivement, de soumettre un État et de vaincre une armée. Bon. Donc, il y a effectivement c'est très intéressant. Ce qui sera nommé hein, ensuite par Lemkin, notamment le génocide des Arméniens, par exemple, l'historien Toynbee va parler du meurtre d'une nation. Donc on tourne autour, et effectivement, Lemkin va avoir ce trait de génie hein, de forger un mot. Donc c'est important parce que comme la langue ne pouvait pas dire effectivement le mot, il y avait bien la langue allemande qui parlait de Volkertmord, c'est-à-dire la destruction, la mort d'une nation, mais et Lemkin ne voulait pas utiliser le mot des bourreaux. Et donc, il va effectivement, dans le livre essentiel, hein, donc je l'ai dit, qui a été réédité aux Belles Lettres, grâce à Jean-Louis Panet, hein, il faut saluer le travail des Belles Lettres, hein, entre parenthèses, que c'est une maison d'édition tout à fait exceptionnelle pour l'édition des documents historiques, Lemkin, dans ce livre « Axis Rule in Occupied Europe », c'est-à-dire qui est publié en novembre 1944, mais qui est fini en novembre 1943, donc on peut dater effectivement la création du mot, il va forger ce mot « genos sidere », c'est-à-dire une racine grecque, hein, « genos », le groupe, hein, le gène, et puis « sidere », l'assassinat, comme tyrannicide ou comme féminicide. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il décide de créer ce mot ? C'est parce que il veut montrer la différence avec le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est, je veux dire, on vise d'abord la nature de l'acte, c'est-à-dire la nature de mise en esclavage, assassinat, qui détruit l'humanité en chaque personne. Et en fait, Lemkin va rajouter font quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Les juristes parlent du dol spécial, c'est-à-dire que ces crimes-là, ils ont une destination. Et la destination, c'est la destruction complète d'un groupe. C'est l'intention de détruire. Et ça, effectivement, c'est, je crois, extrêmement important. Et ça distingue bien, effectivement, par exemple, le génocide d'un crime de masse. Parce que quand on parle de crime de masse, on n'a pas le motif. Alors que quand on a génocide, on a le motif. Le motif, c'est la destruction d'un groupe. Et c'est effectivement quelque chose d'effrayant. Parce que c'est de désigner un groupe, une population, de l'assigner à une race imaginaire hein, ou fantasmée. Et puis, effectivement, de s'acharner, non pas seulement physiquement, hein, mais aussi métaphysiquement. C'est-à-dire, on détruit tout. On détruit les lieux de culte, on détruit la mémoire. En fait, il faut que ces groupes n'aient jamais existé sur Terre.
Vincent Duclerc, vous avez dit quelque chose qui est au cœur, en fait, de cette réflexion juridique sur la définition des mots. Une guerre, c'est une armée contre une autre armée. Les civils, en soi, n'ont rien à faire dans une guerre. En tout cas, c'est longtemps ainsi qu'ont été conçues les guerres, même si c'était pas toujours le cas, on le sait bien. Mais on perçoit qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les choses changent. La création des mots arrive tardivement, bien sûr, par rapport aux événements.
Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a vraiment un tournant extrêmement intéressant et terrible pour l'humanité. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, où le 19e siècle est considéré, bon, en Europe, hein, pas dans les colonies, mais comme un siècle de civilisation, eh bien, tout d'un coup, on franchit des seuils. C'est les grands massacres arméniens de 1894-96, mais c'est aussi les pogroms dans la Russie tsariste, hein, où on voit effectivement les autorités, les armées soutenir les émeutiers, voire perpétrer effectivement les massacres contre les juifs. Et là, on se rend compte que il faut effectivement protéger le droit des gens. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est la doctrine Martins. Martins, c'est un juriste libéral russe qui, à la conférence de La Haye, qui essaye justement de légiférer sur le droit de la guerre, eh bien, en 1899, Martins dit « Il faut défendre le droit des gens tel que ce droit des gens est défini par la conscience publique. » Et là, c'est le point de départ, effectivement, de la nécessité d'armer les juristes et les gouvernants avec donc une nouvelle incrimination. Et cette nouvelle incrimination, eh bien, c'est ce second grand texte que les professeurs en particulier connaissent bien, ainsi que les juristes, c'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, qui est complètement fondée sur le travail de Lemkin de Axis Wool de novembre 1944.
Vincent Duclerc, dans l'émission que le cours de l'histoire a consacrée à cette notion de crime contre l'humanité, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, il y avait cette idée que pendant longtemps, ce qui se passait à l'intérieur d'un État concernait que cet État-là et qu'un État faisait ce qu'il voulait de sa population. L'histoire du mot même génocide, ça va à l'encontre de cette idée-là qu'il y a des valeurs internationales supérieures aux décisions d'un État.
Complètement. Et là, on est aussi Lemkin. C'est intéressant parce que vraiment, et je conseille aux auditeurs de lire Qu'est-ce qu'un génocide, parce que Lemkin travaille comme un historien, comme un juriste, comme un philosophe. Il en fait, établit notamment l'idée qu'il n'y a pas de souveraineté absolue des États et que les populations sont protégées justement par des droits internationaux. Hein. C'est aussi le travail d'André Mandelstam dans l'entre-deux-guerres. Hein. Il y a une série de juristes, hein, Martins, Mandelstam, puis Lemkin. Hein, et donc la communauté internationale a la responsabilité de chaque être humain. Et c'est effectivement le développement aussi de la compétence universelle. C'est-à-dire que, et ça sera très important pour la Convention génocide de 1948, lorsqu'un État est signataire de cette convention, elle peut poursuivre des criminels, des présumés coupables de génocide, parce que, eh bien, c'est un droit international qui se met en place et qu'il faut protéger chaque être humain qui ne dépend pas uniquement de l'État, surtout que lorsque l'État est totalitaire.
Avec ici le constat que font ces gens qui réfléchissent aux notions juridiques quand ils lisent l'actualité, et c'est le cas évidemment pendant la Première Guerre mondiale, au moment où il est question du génocide des Arméniens.
Retournons maintenant à la Première Guerre mondiale. Le cas du génocide le plus connu de cette époque est celui des Arméniens. Plus d'un million furent voués à la mort. Tout se passait sous le nom de déportation. De nombreux intellectuels arméniens furent déportés dans une direction inconnue, d'où presque personne n'est revenu. Puis, une grande vague de déportation fut déclenchée et coûta la vie à plus d'un million de victimes. Les Arméniens recevaient l'ordre de quitter leur ville ou village dans quelques heures. Ils étaient chassés le long de l'Euphrate, vers le sud. Au cours de la marche, le surveillant et la population kurde des villages voisins massacraient les déportés. On tuait les hommes et les enfants, on les jetait dans l'Euphrate. On choisissait les plus belles femmes et on les vendait ou les violait. Les tortures et autres atrocités sont indescriptibles.
Nous venons d'entendre Rafael Lemkin qui s'exprimait à propos du génocide des Arméniens. Nous étions en 1949. Vincent Duclerc, vous êtes le co-auteur d'Arménien, génocide et la justice est publiée aux belles lettres. Cette réflexion sur le génocide des Arméniens, elle est fondamentale aussi pour saisir ce qu'est le génocide. Parce que nous parlons aujourd'hui de génocide, mais le mot n'existait pas à ce moment-là.
Oui, bien sûr, et c'est très important de souligner que Rafael Lemkin, s'il parvient donc vraiment à cet exploit, juridique, historique, linguistique, en 1943, c'est parce que il y a un long travail qui est mené dans l'entre-deux-guerres sur précisément l'extermination des Arméniens. Et il comprend, et là vraiment l'extrait est très intéressant, hein, et il faut souligner aussi les capacités linguistiques de Lemkin, hein, qui est polyglotte, qui parle parfaitement le français notamment, et bien c'est et là je crois que pour les auditeurs c'est extrêmement important. La déportation, c'est un crime contre l'humanité. Mais en fait, la déportation qui a pour but l'extermination, vous voyez, on donne un but au crime contre l'humanité, eh bien, c'est l'extermination totale d'une population. Et là, il le dit bien, la déportation a pour but, effectivement, l'extermination, la disparition, avec aussi toute une série de tortures qui visent à déshumaniser totalement, effectivement, les populations cibles. Donc, je crois que là, c'est très important de souligner que si Lemkin est parvenu à construire cette nouvelle incrimination, un majeur, eh bien, c'est parce qu'il a travaillé jusqu'en 1940 sur l'extermination des Arméniens et qu'ensuite, effectivement, grâce à déjà les matériaux qu'il met en place, notamment en 1933 lors d'une conférence à Madrid, eh bien, il parvient à donc nommer ce crime sans nom en étudiant eh bien, l'État nazi dans l'Europe occupée, comment les lois nazies organisent cette disparition des Juifs d'Europe.
Avec cette temporalité, vous venez d'évoquer, hein, c'est le cas ici, dans cette réflexion entre le génocide des Arméniens au moment de la Première Guerre mondiale, et puis la réflexion plus tardive, presque un travail d'historien ici. Vincent Duclerc, c'est pas non plus cette difficulté-là à laquelle nous sommes sans cesse confrontés avec le génocide, c'est-à-dire ce besoin d'analyse qui arrive après l'événement.
C'est une question extrêmement importante, mais en fait que Lemkin, puis la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, a résolu. Parce que, en fait, il y a bien le mot prévention. Et souvent, prévention, on se dit prévention, ça veut dire simplement de défendre les valeurs universelles, les droits de l'homme. Mais en fait, ça a un sens beaucoup plus précis pour le génocide. C'est-à-dire, un génocide, et c'est bien dit dans la Convention, c'est pas, au fond, la disparition complète, c'est la volonté de faire disparaître. Et dès qu'on commence à massacrer, même si ces massacres ne sont pas totaux, eh bien, on est déjà dans un génocide. La préparation d'un génocide, c'est déjà un génocide. Et donc, on peut arrêter un génocide avant qu'il ne se produise dans sa phase paroxystique. C'est toute la question du génocide des Tutsis. Le génocide des Tutsis, le processus s'est accéléré, je veux dire, à partir de 1990, du reste, quand la France soutenait massivement ce régime pré-génocide. Et là, il pouvait être arrêté. Et c'était déjà un génocide. Donc, la prévention, ça a un sens très fort. Et ça veut dire qu'il faut analyser, effectivement, s'il y a une intention de détruire. Ça, c'est fondamental. Si, je veux dire, l'État qui s'acharne sur des populations, qui développe et qui fait subir à ces populations des crimes qu'on qualifie clairement de crimes contre l'humanité, est-ce que cet État, est-ce que ce gouvernement a une intention de détruire un groupe qui a été ciblé auparavant?
Vincent Duclerc, vous avez travaillé sur le génocide des Tutsis au Rwanda, bien sûr, avec vos ouvrages qu'on trouve sur le site internet Le Cours de l'Histoire, parce qu'il y a vraiment ces traits communs, et c'est ça qui est particulièrement pertinent au moment de réfléchir à cette notion de juridique de génocide, et nous évoquions la temporalité, ça éclate au plein jour, au moment du massacre, mais pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait les années qui précèdent, les dizaines d'années, peut-être plus parfois. Tous ces éléments qui mettent en place le génocide, cette temporalité-là, elle est déjà présente.
Oui, elle est, et c'est pour ça que c'est très intéressant la manière dont Lemkin remonte, je veux dire, très en avant dans l'histoire de l'Empire ottoman, dans, dans la, la dictature du sultan Abdülhamid II. Abdülhamid II va être le sultan fétiche des jeunes turcs unionistes qui réalisent la phase paroxystique. En fait, pour les auditeurs, il est très important de dire qu'un génocide, c'est trois temps. C'est la préparation, c'est déjà le génocide. La phase paroxystique, où là, effectivement, c'est l'extermination totale et c'est très difficile de l'arrêter, à moins de vaincre militairement donc l'État qui s'acharne sur et qui détruit une population. Et puis la dernière phase, c'est le déni. Et face au déni, eh bien, le travail de la justice, mais aussi le travail des historiens. Et c'est pour ça que Lemkin, pour son analyse de l'extermination des Juifs d'Europe, effectivement, analyse très clairement la construction de l'État nazi, et notamment le droit nazi. Et comment le droit nazi est là pour réaliser la mort sociale, la mort civique, la mort économique d'un groupe cible, c'est-à-dire les Juifs. Et en fait, c'est très intéressant aussi de voir que Lemkin part des textes nazis. Donc, il prend les nazis au mot pour démontrer leur intention de détruire.
Mais c'est difficile cela, parce que l'État qui est à la tête de ce génocide ne va jamais dire « je suis en train de pratiquer l'extermination d'une population ». Eh bien, au contraire, il ne le dit pas. Il va parler de mille autres choses. C'est le cas pour les Arméniens. Les Turcs vont utiliser d'autres arguments. Donc, il faut ici avoir des grilles d'analyse pour saisir comment ces discours-là couvrent en fait un génocide.
Parfaitement, vous avez parfaitement raison. On sait que les chambres à gaz, c'était un secret d'État. Hein. C'est du reste un grand livre d'un historien allemand. Hein. Et donc, il y a bien sûr, tout est masqué et que... À chaque fois, effectivement, le prétexte, notamment des déportations des Arméniens, c'est de dire que il faut les évacuer du front, alors même que, je veux dire, beaucoup d'Arméniens ne vivent pas sur le front entre l'Empire ottoman et la Russie. Donc il y a toute une dissimulation. Mais grâce, effectivement, au travail, et c'est pour ça que le travail des historiens, des juristes, mais aussi des journalistes sur le terrain, des diplomates qui documentent tout ça, effectivement, on peut montrer. Et c'est le cas, par exemple, d'un consul américain qui dit clairement en 1915, la déportation a pour but l'extermination.
Oui, parce qu'on va retrouver ça. Alors, on le dit bien, hein, que la chose existait bien avant le mot, et le XXe siècle est riche de ces moments-là, de ces horreurs-là. Il y a le génocide des Arméniens, bien sûr, et il y en a d'autres. Après, direction l'Ukraine, l'Holodomor.
Je me rappelle que pour le nouvel an de 1933, nous étions une quarantaine d'élèves dans notre classe d'école. On ne pensait même pas recevoir des sucreries ou des douceurs, juste du pain. Et à la rentrée, un garçon de notre classe était mort.
Après que les Soviétiques ont nié la tragédie pendant des décennies, l'Holodomor est aujourd'hui un enjeu de mémoire essentiel pour une nation ukrainienne qui se cherche encore. Vasil Morochko est historien, il rappelle que le Parlement ukrainien a reconnu la famine comme un génocide en 2006, mais cette déclaration ne fait pas consensus.
Ça me désole beaucoup que la Fédération de Russie suive la tradition de l'Union soviétique. Elle n'accorde aucune reconnaissance, d'un point de vue politique ou légal, à l'Holodomor. Et c'est un conflit de civilisation qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Le président ukrainien actuel, Viktor Yanukovych, a toujours refusé de reconnaître l'Holodomor comme une attaque contre les Ukrainiens en particulier.
Nous nous sentons combien dans ce reportage de France Inter en 2013, les questions du moment où l'État ne va pas dire « je suis en train de pratiquer un génocide » ont des répercussions sur le temps long jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Raphaël Lemkin regarde ce qui se passe en Ukraine au début des années 1930 quand cette famine est organisée et provoque des millions de morts ?
Tout à fait, hein. Et ça c'est aussi un des apports de la longue introduction Zolupane pour la réédition de Qu'est-ce qu'un génocide, hein, le Axis sur l'Inoccupied Europe, c'est effectivement que Lemkin a un deuxième cas après l'extermination des Arméniens, c'est donc ce qu'il va appeler, hein, une fois qu'il aura forgé le mot, le génocide soviétique en Ukraine. C'est, je veux dire... Une affirmation fondée de Raphaël Lemkin, et ça renforce effectivement sa volonté de créer une loi universelle pour protéger ces populations, donc victimes d'une intention de détruire, et on peut le prouver. Hein. Vous avez par exemple des photographies où on voit des soldats, notamment envoyés par Moscou, garder les greniers à blé. Il y a bien du blé. Mais effectivement, on empêche les populations d'accéder à ce blé, et donc il y a une intention de détruire ces populations.
Avec tant de tensions, et nous le savons bien ici, ce qui se passe, ce qui est organisé par les Soviétiques en Ukraine, par Staline, est perçu de manière très différente ailleurs, selon qu'on l'on soutienne ou pas le stalinisme. Si on est communiste, on va pouvoir s'interroger, mais c'est toujours cette grande difficulté, c'est que tout est question de preuves, d'arguments, de consensus. Il n'y a jamais d'évidence sur le moment même, et on le sent bien encore après.
Oui, mais alors je pense qu'il faut vraiment dire à vos auditeurs que on n'est pas dans le relativisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a des faits objectifs, il y a une définition extrêmement claire que l'on retrouve donc dans l'article 2 de la Convention du 9 décembre 1948, hein, et en fait ces éléments-là permettent, je veux dire, à un moment donné, de définir les réalités. Et en fait, ce n'est pas à fonction, du point de vue que l'on défend. Et c'est pour ça, effectivement, que l'un des points extrêmement importants, c'est que du génocide, on passe aussi à l'examen de l'État. Et en fait, seul un État tyrannique mène un génocide. Et donc, ça implique aussi une réflexion de science politique aussi sur ce qu'est un État et comment un État est capable, je veux dire, de déshumaniser une population et donc de l'éliminer pour le bien d'une race dite supérieure.
Oui, c'est tout à fait le cas au moment de la Seconde Guerre mondiale avec un célèbre discours de Winston Churchill.
Depuis les invasions mongoles en Europe au XVIe siècle, il n'y a jamais eu de boucherie méthodique et impitoyable d'une telle ampleur, ou approchant une telle ampleur. Et ce n'est que le début. La famine et la peste doivent encore suivre dans les sillons sanglants des chars d'Hitler. Nous sommes en présence d'un crime sans nom.
Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidere, tuer. Donc, le génocide est un nouveau mot parallèle aux mots comme homicide, infanticide. C'est un hybride comme le mot criminologie. Cette combinaison d'un mot grec et d'un mot latin symbolise les deux anciennes civilisations, grecque et latine, qui sont à l'origine de notre civilisation moderne. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait :
We are in the presence of a crime without a name.
Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom. Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains et qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion, de la nationalité. Les mots extermination ou meurtre en masse n'englobe pas la destruction biologique comme la stérilisation, l'avortement ou la destruction culturelle ou spirituelle du groupement victime.
Winston Churchill en 1941 avec la voix de Thomas Beau, suivi de Raphaël Lemkin en 1948. Il y a un écho évidemment, Raphaël Lemkin l'explique avec ce discours de Churchill. L'invention, Vincent Duclerc, de ce mot génocide répond à un besoin juridique, et ça on le saisit bien, mais pas seulement juridique. Winston Churchill, il est chef d'État, enfin il est chef de gouvernement, et il a besoin de ce mot, mais la population aussi a besoin de mots.
Alors Lemkin va même plus loin, parce que si on est très précis, Churchill décrit les atrocités nazies sur le front de l'Est, puisqu'en fait, il parle quelques semaines après le déclenchement de l'opération Barbarossa, hein, de l'invasion de l'URSS et la rupture du pacte germano-soviétique. Mais en fait, il ne dit pas que ces crimes monstrueux sont dirigés d'abord en direction des Juifs. Ça, c'est très important. Et il faut quand même rappeler que, en dépit de toutes les informations sur l'extermination des Juifs d'Europe, notamment le travail de Karski et bien d'autres, je veux dire, témoins, donc messagers de l'humanité, comme on les appelle, eh bien, les alliés, hein, Churchill et Roosevelt, n'auront pas pour objectif militaire de sauver les Juifs d'Europe. Hein. Bon, ça, c'est quand même une question extrêmement importante. Et Lemkin, qui est essaye, je veux dire, aussi auprès des autorités américaines, puisqu'il a réussi à se réfugier aux États-Unis. Donc, il a des contacts, il rencontre même le vice-président américain, Wallace, mais en fait, c'est un échec. Personne ne veut effectivement s'intéresser au sort des Juifs. On ne veut surtout pas, effectivement, laisser croire que les Alliés mènent une guerre pour les Juifs. Hein. C'est la propagande allemande qui tente de le dire. Et en fait, là où Lemkin est très fort, c'est que il va en fait se saisir de cette interrogation de Churchill, un crime sans nom, pour dire voilà le crime. Le crime, il est là. Il est contre les populations juives et donc on va forger ce terme de génocide. Donc je crois que Lemkin, et ça, il faut vraiment y insister, c'est non seulement un penseur, un théoricien de grande élévation, hein, mais c'est aussi un homme qui va se battre, je veux dire, auprès des gouvernants, aux Nations Unies, auprès de la presse, hein, on le voit effectivement à travers ces déclarations, et les sons que vous avez trouvés sont vraiment excellents, hein, eh bien, pour faire entendre et briser ce qu'on appelait la conspiration du silence autour de la disparition des Juifs d'Europe. Donc Lemkin, c'est un personnage, je crois, passionnant. Perl Burke, qui est l'écrivaine qui a eu le prix Nobel de littérature, imaginait pour lui un prix Nobel de la paix, hein, parce que, effectivement, Lemkin est toujours à redécouvrir, et du reste, demain, hein, le 28 août, c'est l'anniversaire de son décès. Il est mort le 28 août 1959, et il faut savoir que il est mort à New York, et que 7 personnes seulement l'ont accompagné dans sa dernière demeure, hein, dans sa inhumation, et Lemkin est toujours à retrouver, et donc c'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui.
Bah merci Vincent Duclerc de le rappeler, d'évoquer Lemkin, et de le lire aussi, hein, comme vous l'avez dit, avec toujours l'idée de la portée d'une pensée au moment où elle est construite. Il est entendu, Lemkin, au moment où il avance toutes ces idées que voilà un mot qui va correspondre à la réalité de ce qu'il est en train de se passer en Europe. Il est entendu.
Alors, il est entendu parce qu'il y a quand même une mauvaise conscience européenne, hein, justement, d'avoir abandonné les Juifs, parce que c'est le cas, comme on a abandonné les Arméniens, et comme on abandonnera les Tutsis. Et oui, alors il est entendu d'abord parce que le procès de Nuremberg où triomphe en fait une autre incrimination forgée par un autre juriste donc polonais, naturalisé britannique, et là c'est bien expliqué dans le récit de Philip Sands, un retour à Lemberg où effectivement ces deux juristes donc ont fréquenté l'université de Lemberg qui est Lviv aujourd'hui, hein, en Ukraine, et donc c'est la Charte de Londres qui fonde le statut du tribunal pénal international, du tribunal interallié, pardon, de Nuremberg. Et effectivement, les responsables nazis sont jugés, notamment pour crimes contre l'humanité. Et là, on se rend compte que, alors même que déjà l'incrimination commence à exister, hein, puisque le livre de Lemkin est sorti en novembre 1944, on sait ce qu'il fait. Là, il y a une grande déception sur le fait que on ne poursuit pas les responsables nazis pour crime de génocide. Et c'est certain que Lemkin va réussir donc à convaincre les Nations Unies qui viennent d'être créées à San Francisco, hein, avec une charte extrêmement importante, il faut le souligner. Donc en novembre 1946, c'est déjà une résolution. Et puis en décembre 1948, c'est donc l'adoption par l'Assemblée générale à Paris, puisqu'il n'y avait pas encore le siège de New York, hein, et donc l'Assemblée générale est au palais de Chaillot, Trocadéro, et c'est là, effectivement, où vous avez l'adoption de la Convention, qui ensuite va être ratifiée par 21 États, et donc entrée en vigueur en 1951, et le lendemain, c'est important, le lendemain, c'est la 10 décembre, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, c'est intéressant, parce que ces deux textes réagissent aux deux grandes incriminations de la Seconde Guerre mondiale, crime contre l'humanité, l'auteur part, et crime de génocide, Lemkin.
Avec cette convention qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, met en avant ce crime, celui de génocide.
Le Brésil a apposé sa signature au texte de la Convention pour la prévention et la répression du génocide approuvé par l'Assemblée à Paris. Les États ont convenu à faire bannir de leur territoire ces crimes honteux, le plus lâche de tous, crimes commis contre des groupes entiers parce que groupes d'êtres humains. Ici, le crime n'est plus dirigé contre un individu personnellement, mais en sa qualité de personne humaine appartenant à telle communauté ou collectivité, à tel groupe racial, national ou religieux. C'est un crime contre la condition humaine. L'individu n'entre en considération que parce qu'il incorpore l'idée visée. C'est cette particularité, le caractère collectif, anonyme, systématique, qui prête au génocide cette marque spéciale de lâcheté et d'infamie.
En 1949, M. Amado, l'ambassadeur du Brésil à l'ONU, qui évoque cette convention pour la répression du génocide, avec ici une définition très claire, Vincent Duclerc, d'aujourd'hui. Quand nous écoutons ça, ça nous semble presque une évidence. Et c'est toujours pertinent hein, de voir comment tout cela s'est construit et que c'est un cheminement qui, malgré tout, est long, difficile. Il faut l'imposer. 1949, ça, c'est vraiment la signature. Ça y est, la convention est là. C'est un changement, déjà.
Oui, alors, préciser que donc, la convention du 9 décembre 1948, donc elle est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, mais pour qu'elle rentre en vigueur, il faut, et c'est dans le texte de la convention, que 21 États la ratifient. Et là, c'est intéressant parce que Lemkin va vraiment prendre son bâton de pèlerin pour convaincre un à un les États de la ratifier, dont la France, hein, qui va la ratifier très tôt. Et là, il y a des grands juristes français, hein, notamment Alexandre Parodi, là, qui vraiment ont compris l'importance de la Convention, qui même, en fait, vont soutenir Lemkin dans l'idée que la Convention ne serait efficace que s'il y a une Cour internationale permanente, hein, qui ne va malheureusement pas être créée, si bien que lorsqu'on constate des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, enfin, on envisage en ex-Yougoslavie en 1993, puis face au génocide des Tutsis, eh bien, dans l'urgence, il faut créer un tribunal pénal international. Parce qu'il n'y a pas de cour permanente. Aujourd'hui, il y a une cour permanente qui est la Cour pénale internationale. Donc, heureusement qu'elle existe. Donc, c'est un travail de Lemkin aussi. Il ne faut pas se dire que la Convention va tout régler. En fait, il faut déjà qu'elle soit ratifiée. Et ensuite, pour répondre aussi à votre question, c'est un très long travail que Lemkin mène depuis ses années d'études à Lemberg, où il analyse notamment un procès, de procès Télérian, qui est un jeune militant arménien qui assassine dans les rues de Berlin l'architecte en chef du génocide des Arméniens, c'est-à-dire Talat Pacha. Or, Talat Pacha a été condamné donc à mort par contumace, puisqu'il n'est pas à Constantinople, par les tribunaux de ottomans. Il faut se souvenir que les Ottomans vont effectivement juger ces criminels. Et en fait, il réfléchit beaucoup à ce procès Télérian, hein, au fait que comment est-ce qu'on peut effectivement, dans des procès pénaux classiques, condamner un homme pour un meurtre, mais effectivement qu'on ne va pas condamner des gouvernants pour 1 million de morts. Hein, avec une visée effectivement de destruction complète d'une race ou d'une religion. Donc il réfléchit très tôt et le parcours de Lemkin vraiment est extrêmement intéressant et plein d'enseignements parce que en fait, Lemkin est un homme seul. C'est un homme qui est en butte à de très nombreuses oppositions. Par exemple, en 1933, il veut participer à une conférence à Madrid sur l'unification du droit pénal international. Et en fait, le gouvernement polonais refuse qu'il ne s'y rende parce que le gouvernement polonais se rend bien compte que, avec le régime nazi qui s'est installé donc en Allemagne, hein, eh bien, il ne faut pas effectivement effrayer les nazis. On évite de telles présentations et Lemkin ne peut pas aller à Madrid. Il va envoyer son texte, c'est un texte fondamental qu'il va reprendre du reste dans son livre Accessible en Occupant l'Europe, où il définit, et là c'est intéressant, on voit bien comment Lemkin travaille. En 1933, il tourne autour de la notion de génocide et il associe, il dit voilà, au fond, il faut effectivement essayer d'avancer sur deux notions. le crime de barbarie, donc effectivement on voit très bien, notamment la mise en esclavage, la soumission à des situations visant à la destruction d'un groupe, et puis le crime de vandalisme, c'est quand on s'acharne sur les biens immatériels, sur tout ce qui fait un groupe, une nation, notamment les lieux de culte, les archives, quand on s'acharne aussi sur les élites qui sont porteuses quand même de la culture du groupe. Et donc on voit bien que finalement le crime de génocide, c'est ces deux crimes-là, de barbarie et de vandalisme. Donc il progresse pas à pas, mais dans des difficultés énormes. Il est tout seul, il va finir par quitter son poste de procureur, donc adjoint à Varsovie, donc dans les années 30, à la fin des années 30, parce qu'il n'a pas la liberté de travailler. Il enseigne, mais il a très peu de revenus. Il va vivre dans la pauvreté, dans la détresse, lorsqu'il apprend l'extermination de toute sa famille, notamment de sa mère, dont il était très proche. Il va se battre. Et aux États-Unis, même s'il est accueilli d'abord par l'université Duke, puis il va pouvoir trouver des postes à Yale ou donc dans d'autres universités. Il n'empêche qu'il n'est pas payé. Il est malade aussi. Donc c'est quand même, je trouve, il a une résilience incroyable, pour reprendre un terme connu, et c'est une figure qu'il faut saluer et admirer, et je crois que c'est un exemple précisément de cette lutte qui n'avait rien d'évident, parce que il y a toujours une incrédulité, et c'est ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale ou même lors de la Première Guerre mondiale. Imaginez donc qu'un État décide la mise à mort d'une partie de sa population. On ne peut pas imaginer cela. C'est-à-dire que l'humanité décide d'exterminer une partie de l'humanité. C'est inconcevable. Et pourtant, ça s'est passé. Et donc, il faut le grand défi, c'est cela. C'est de passer du savoir exact, à la compréhension et donc ensuite à l'action.
Est-ce que vous dites, Vincent Duclair, en écho même au parcours individuel de Raphaël Lemkin, c'est ce qu'on va retrouver avec les Arméniens et ce long combat pour faire reconnaître le génocide. Mais ce sentiment de ne pas être entendu, et vous l'avez dit avec justesse, mais pareil, les informations qui pouvaient arriver sur le bureau de Churchill notamment, mais pas seulement de Churchill, n'est pas entendu, c'est pas compris, tellement cela semble impensable.
C'est ça, et le crime de génocide et l'invention du mot génocide, c'est ça, c'est de franchir en fait ce mur de l'impensable et de penser l'impensable. Et ça, vraiment, c'est admirable de parvenir à cela, avec aussi une clarté. Je veux dire, le Axis Wind Occupat New Europe, le chapitre 9, est extrêmement clair. Je veux dire, il dit bien que un génocide, c'est la mise en œuvre de toute une série de dispositifs de crimes, d'actes criminels, pour anéantir. Et je crois que le terme d'anéantissement est très juste. Effectivement, on anéantit tout, on anéantit le corps, enfin les êtres vivants, mais on anéantit la possibilité que le groupe se perpétue, notamment en s'acharnant sur les enfants. Lemkin est dans la convention, il faut se souvenir que le crime de génocide, c'est aussi donc de transférer des enfants d'un groupe à un autre groupe. Et là, clairement, Lemkin visait le génocide des Arméniens et pas le génocide des Juifs d'Europe, parce que les nazis ne sont jamais emparés d'enfants juifs pour en faire des nazis.
Oui, c'est ça, parce que ici, cette évolution de la définition même du génocide, c'est une construction historique, on voit bien par l'étude, par la réflexion, et c'est sur le temps long qu'on doit saisir l'histoire de ce mot génocide.
Dès 1948, 2 ans après Nuremberg, la Convention internationale sur les génocides, que nous avons d'ailleurs signée et ratifiée, prévoyait la création d'une cour criminelle internationale, précisément parce que l'on savait que ce sont des crimes d'État. Et l'on savait que les États, pour des raisons diverses, le plus souvent, ne poursuivraient pas de tels crimes. Puis le temps a passé, il aura fallu l'effondrement de l'Empire soviétique, la fin des régimes communistes, on pourrait dire aussi la fin de la décolonisation, pour que cela devienne possible. Et c'est le conflit yougoslave qui a montré que c'était nécessaire. Parce que 50 ans après Nuremberg, en Europe, presque au su et au vu de tous, les crimes contre l'humanité ont recommencé. Et à cet instant-là, nous avons été une poignée, oh, quelques-uns, à demander à la conférence de Genève pour la paix dans l'ex-Yougoslavie que, tout simplement, on ne reste pas passif, qu'on n'admette pas que les auteurs de ces crimes restent impunis. Et c'est dans ces conditions-là qu'a été créé, contre, je dois le dire, l'avis des sceptiques, le tribunal pénal international de la haie.
Nous voici désormais dans les années 1990, précisément 1998, quand Robert Badinter évoque cette cour pénale internationale. C'est ici, Vincent Duclerc, un rappel à ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui permet à Robert Badinter d'évoquer un progrès. Il a fallu attendre du temps, mais la Yougoslavie ici joue un rôle déterminant pour cette histoire.
Oui, et là il y a un sous-texte intéressant et il faut saluer Robert Badinter, qui ne fait pas seulement qu'évoquer. En fait, c'est un acteur de la création du TPI grec, Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, dans la mesure où il l'a bien expliqué, notamment dans un entretien avec une mission de recherche que j'avais présidée. C'est en fait qu'il y avait en 1993, au début donc de l'éclatement de la Yougoslavie, un problème majeur pour l'Europe. Quel était-il ? C'était que l'Allemagne d'Helmut Kohl soutenait la Croatie et la France de François Mitterrand soutenait la Serbie. Et là, il y a un risque majeur de rupture de l'unité européenne. Et donc, Robert Badinter va convaincre François Mitterrand qu'il faut lancer donc un tribunal pénal international, qu'il faut reprendre précisément le projet lemkinien de 1948 d'une cour pénale internationale et de pouvoir régler par le droit, ce conflit diplomatique et politique qui allait de manière crescendo. Et la contribution de Robert Badinter à cette création est majeure.
Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est 1993, mais alors ça concerne l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on a un tribunal international, mais pour un cas précis. Et là, dans une réflexion qui nous a fait débuter avec Raphaël Lemkin, mais on aurait pu, et vous l'avez fait Vincent Duclerc, citer d'autres penseurs, nous ne sommes pas à l'aboutissement complet d'une lutte contre les génocides, parce que c'est un tribunal pour un cas.
C'est pas un cas, mais un cas emblématique, un doublement emblématique, parce que pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste, les reportages, il faut saluer les journalistes, et du reste intéressant parce que une journaliste britannique, Samantha Power, qui va devenir ensuite une universitaire américaine, en ex-Yougoslavie, et documente donc ces camps de concentration et ces massacres de masse, dont on ne sait pas très bien effectivement ils visent une population ciblée, mais le TPY va considérer le massacre de Srebrenica comme un crime de génocide, et on a commémoré donc ce massacre il y a quelques semaines, notamment par Esprit a fait un colloque important sur le sujet. Donc c'est bien sûr un cas spécifique, mais un cas emblématique, à la fois pour les Européens qui pensaient que grâce au droit, aux enseignements de la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait plus, de telles extrémités criminelles. Eh bien non. Et en plus, effectivement, la question, c'est la question des États. C'est-à-dire que le TPY grec va poursuivre les dirigeants de la République autoproclamée, serbes de Bosnie-Herzégovine, et puis également les dirigeants serbes. Et c'est pas terminé, puisque il faut se rappeler que le premier ministre serbe qui a décidé de déférer Milosevic, l'ancien président serbe, à La Haye, a été assassiné ensuite. Et que pour la Serbie, moi j'étais en Serbie il y a quelques semaines, et vous avez des grandes banderoles donc à Belgrade disant le seul génocide qui a été commis en ex-Yougoslavie, c'est contre les Serbes. Donc, les enjeux, effectivement, de reconnaissance, c'est très, très important. Et je crois qu'il faut vraiment défendre le droit, défendre les cours pénales internationales, défendre les magistrats. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une attaque en règle par Donald Trump et par Benjamin Netanyahu contre la CPI, et la CPI a travaillé, comme la Cour internationale de justice, de manière méthodique. Les juges de la CPI, et notamment il y a un juge français qui est très attaqué, sont des magistrats extrêmement scrupuleux. Les décisions sont absolument fondées, et donc notre rôle à nous, à la fois de citoyens, mais aussi de nos gouvernants, c'est de défendre ces acquis majeurs, et notamment la création de cette Cour pénale internationale, qui obéissait donc à une volonté des Nations Unies, une volonté de Lemkin en 1948.
Oui, des acquis, vous venez de le dire, Vincent Duclerc, et c'est vraiment ça. Et à vous écouter depuis le début de cette émission du cours de l'histoire, on entend bien cette construction lente et difficile pour aboutir dans les années 1990. Alors dans un premier temps au Tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, c'est 1993, et le contexte de ces années-là conduit à un autre génocide, cette fois c'est au Rwanda. Donc de nouveau un tribunal international.
Oui, alors le Rwanda, on a déjà parlé, mais effectivement, c'est absolument terrible parce que, en fait, qu'il faut bien considérer, c'est que le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs d'Europe se réalisaient dans le cadre de guerres mondiales, et que si finalement les belligérants protecteurs des droits de l'humanité voulaient mettre fin à ces deux génocides, il fallait d'abord vaincre effectivement les puissances dont ils commettaient ces génocides, vaincre militairement. Bon. Le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est pas du tout ça. Je veux dire, vous n'avez pas de guerre mondiale. Vous avez au contraire des troupes françaises, puis des troupes des Nations Unies, puis encore des troupes françaises dans l'opération Amaryllis, l'opération Turquoise, qui sont présentes. Et donc, tous les moyens militaires, les moyens politiques et les moyens juridiques, le TPI grec pour les États-Unis, était créé pour arrêter le génocide avant cette phase paroxystique. Malheureusement, ça ne se produit pas. On a beaucoup travaillé, notamment dans notre commission de recherche décidée par Emmanuel Macron, donc sur le sujet, sur les responsabilités accablantes des autorités françaises. Et en fait, les Nations Unies donc constatent timidement les infractions et le crime de génocide seulement en juin 1994, sachant que le génocide commence le 7 avril 1994 et que, en fait, on sait que le génocide va se produire. Il y a eu des alertes très nombreuses, notamment d'officiers et de diplomates français. Il faut les saluer. C'est quand même des lanceurs d'alerte tout à fait exceptionnels. L'ambassadeur Antoine Onfray, le colonel attaché de défense Galigné, le CPA-10, donc l'opération Turquoise. Donc ça, c'est effectivement des choses extrêmement importantes qu'il faut indiquer. C'est pour ça que le génocide des Tutsis, c'est une douleur immense pour toute l'humanité et en particulier pour la France. Et en fait, les Nations Unies, parce que les Nations Unies sont terriblement responsables, et les Nations Unies n'ont pas fait le travail que Emmanuel Macron a lancé, là, effectivement, en 2019. Les Nations Unies ont fait un rapport Carlson, qui effectivement ne dit pas grand-chose sur l'effondrement des Nations Unies, qui... Le Conseil de sécurité, alors certes, c'est les grandes puissances, mais ne reconnaît le génocide et timidement au Rwanda qu'en juin, alors même que, je l'ai dit, le génocide commence le 7 avril 1994. Et le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, est créé le 8 novembre 1994, mais dans des conditions assez troubles, parce que la France appuie donc la création de ce tribunal, mais en manipulant cette création. On l'a montré dans notre rapport remis à Emmanuel Macron en 2021. En effet, effectivement, le tribunal n'est compétent que pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Or, en fait, il y a deux problèmes. D'abord, la France, comme ça, évite que l'on s'interroge sur le soutien des autorités françaises au gouvernement pré-génocidaire de Dabir Imana. Et deuxièmement, c'est même totalement contradictoire avec la définition d'un génocide, puisqu'un génocide, c'est une préparation, c'est un processus. Si on ne peut pas penser l'organisation du génocide, il n'y a pas de génocide. On est plutôt dans des massacres dits spontanés.
Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de juristes et aussi d'historiens de 2019 à 2021. Vincent Duclerc, vous avez été à la tête d'une commission d'historiens sur le rôle de la France au Rwanda, une commission voulue par le président Emmanuel Macron, qu'on retrouve Emmanuel Macron en 2021 à Kigali.
Un génocide vient de loin. Il se prépare. Il prend possession des esprits méthodiquement pour abolir l'humanité de l'autre. Il prend sa source dans des récits fantasmés, dans des stratégies de domination érigées en évidence scientifique, Ils s'installent à travers des humiliations du quotidien, des séparations, des déportations. Puis se dévoile la haine absolue, la mécanique de l'extermination. Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril, parce qu'ils savent. C'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence.
Emmanuel Macron à Kigali en 2021, Vincent Duclerc. Oui, alors vous avez été historien à la tête de cette commission. On entend bien dans le discours de président, les choses sont entendues. Et la nécessité de regarder sur le temps long, c'est important. C'est pas seulement faire l'histoire du génocide, c'est aussi faire l'histoire des structures étatiques qui ont conduit à ce génocide. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a une cour pénale internationale, il y a une compréhension de ce qu'est un génocide. Depuis Raphaël Lemkin, nous voyons bien que les choses ont avancé. Quelles en sont les limites?
Alors, vous êtes juste indiqué la qualité de ce discours. Hein. Notre commission était pleinement indépendante et nous n'avons jamais agi effectivement sans cette indépendance scientifique. Il faut reconnaître là que le discours d'Emmanuel Macron effectivement est très juste et très fort, courageux, puisqu'il va reconnaître les responsabilités accablantes des autorités françaises. Et surtout, et là je crois que l'extrait est bien choisi, parce qu'il montre bien ce qu'est un génocide. Il vient de loin. Et c'est ça, effectivement. Et ce génocide, il vient de la colonisation belge, qui effectivement installe des races fantasmées. Il n'y a pas de race, je veux dire, au Rwanda. Les Tutsis, les Hutus, ce sont des groupes sociaux. Et les Belges figent. Et donc, il y a un régime d'apartheid au Rwanda, comme en Afrique du Sud, mais au détriment des Tutsis. Et donc, dès lors, effectivement, qu'on a une race ciblée, eh bien, on peut l'exterminer, la désigner, la repérer, etc. Bon. Donc, aujourd'hui, je crois que, en fait, aujourd'hui, c'est intéressant parce que tout le monde a compris que le génocide, c'est le crime le plus élevé. C'est quand on dit génocide, c'est parce que quelque chose de terrible se passe. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a une inflation, du mot génocide. Hein, et moi-même, j'ai pris des positions fin octobre 2023. Donc, lorsqu'on disait immédiatement génocide à Gaza, regardons la définition, regardons la convention. Est-ce qu'il y a une intention de détruire? Est-ce que l'État israélien est un régime totalitaire? Donc, c'est des questions qu'il faut poser. Oui. Et on peut les poser grâce, justement, à ces textes. Il faut revenir aux textes, il faut revenir à ces deux grands textes, hein, Accessoire et Occupied Europe, le chapitre 9, qu'est-ce qu'un génocide? C'est extrêmement lumineux. Revenir aussi aux extraits que vous avez présentés, et puis revenir au texte de la Convention. Et là, on est armé pour poser des questions et pour effectivement aussi faire comprendre à nos concitoyens, aux élèves, aux gouvernants, que le droit est extrêmement important si on ne veut pas effectivement que le monde se déchaîne dans des guerres qui ne sont pas seulement des guerres entre États, mais des guerres contre les civils, contre des gens qui effectivement n'ont qu'un désir, hein, c'est de vivre heureux et en paix.
Avec le statut de Rome qui, en 1998, met en place la Cour pénale internationale. Puis après, il y a toutes les phases de ratification. Mais il y a même désormais un outil de justice internationale qui existe. Donc on sent bien qu'il y a cet aboutissement. Mais vous l'avez dit plein de fois, Vincent Duclerc, et c'est très juste, c'est une histoire de tribunaux, c'est juridique. Mais ça va beaucoup plus loin, cette question de génocide. Et il y a les populations qui cherchent à comprendre aussi.
Oui, et je crois que, et encore une fois, le texte de Lemkin le dit très bien, tout commence par des discriminations, par la haine de l'étranger, par la violence. Et en fait, si l'on veut lutter contre les génocides à venir, hein, il faut effectivement faire de la prévention de la manière que j'ai évoquée aussi au début de l'émission, c'est-à-dire de dire que le bien commun, l'amour entre les personnes, la force des personnes sans pouvoir, hein, de la parole, la religion aussi lorsqu'elle défend l'humain, la dignité, tous ces éléments-là peuvent empêcher la persécution, la discrimination, la haine, et qu'il faut vraiment lutter. Je ne dis pas effectivement que toute manifestation de racisme débouche sur un génocide, mais enfin, il faut quand même le dire, l'antisémitisme a mené à la Shoah. On sait au fond où va effectivement l'antisémitisme, où va la haine contre les Arméniens, où va la haine contre les Tutsis. Et donc, on est armé pour le savoir. Et je crois que c'est tout le rôle aussi de notre école, hein, qui fait un travail, d'affaires exceptionnel. Hein. Je salue les enseignants sur ce point, hein, et les chefs d'établissement et toutes les communautés scolaires, hein, pour essayer justement de donner aux jeunes, eh bien, une vision de l'avenir, qui soit une vision de paix, de compréhension, d'analyse, d'amour de la culture, tous ces éléments qui ont construit quand même le monde, le monde idéal, mais le monde qui s'est aussi réalisé, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, de grands projets, hein. Les résistants, ont travaillé pour construire ce monde nouveau. Moi, je renvoie par exemple, au dernier livre publié d'Albert Camus, hein, Actuel 4, hein, qui est sorti l'année dernière, où là on voit effectivement tous les idéaux d'Albert Camus, et c'est quand même quelqu'un, c'est une figure qui nous parle aussi. Et je crois que ces figures-là, il faut revenir à des figures positives, à des figures de courage, et Lemkin en est un parfaitement.
Merci Vincent Duclerc de rappeler que, effectivement, la plupart des gens veulent vivre en paix et veulent vivre tranquillement et ne cherchent pas à s'opposer, sauf si on les place dans des conditions où ils sont eux-mêmes obligés de s'opposer. Je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui d'une écrivaine rescapée, hein, du génocide des Tutsis au Rwanda, Annick Kaitei-Josan. C'est l'autrice de « Nous existons encore » à propos du mot « génocide ».
Le mot « génocide », moi je l'ai découvert en arrivant en France. Je ne savais pas qu'on était en train de vivre un génocide. Je trouve que le mot génocide ne dit pas, par exemple, moi quand ma mère a été tuée, on m'a fait nettoyer son sang. J'y ai passé. Le moment où les tueurs sont arrivés chez nous, où elle a été tuée, ça a peut-être duré un quart d'heure. J'ai passé une journée à nettoyer son sang. Ça, ce n'est pas contenu dans le mot génocide. Là, je suis désolée, je suis émue. Ça fait 30 ans que j'attends de trouver le corps de ma mère. Les tueurs savent, ils savent, il y a quelqu'un qui sait où elle est. Ils ont laissé son corps aux chiens. Le mot génocide ne dit pas ça. Donc j'aime pas ce mot-là parce qu'il réduit. On va dire le génocide rwandais, on va dire il y a eu 100 000 morts, mais ça ne dit pas le trou noir dans lequel ça nous a plongés.
C'est toujours bouleversant d'entendre un témoignage comme celui-là, avec la limite d'un mot qui est une notion juridique, qui est utile devant une cour de justice. Et c'est là, Vincent Duclerc, on retrouve tout ce que vous venez de dire, l'importance de l'éducation, de la culture, pour saisir aussi l'ampleur de ce que signifie ce mot.
Le témoignage est très important, et vraiment, c'est les témoignages, c'est quand même le matériau des historiens avec les archives. Et ce qui est dit, c'est que, en fait, chaque mort compte, chaque être vivant exterminé doit être restitué dans ce qu'il a été. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître la vie d'avant, hein, parce qu'il y a une vie. C'est pour ça que notamment au Rwanda, au mémorial de Gisozi à Kigali, c'est tellement émouvant de voir ces photographies de la vie d'avant des Tutsis, où on voit quand même dans leur regard l'effroi, parce que ils savent que leur vie est condamnée, mais ils tentent de vivre et ils tentent effectivement d'élever leurs enfants, et la manière dont les Tutsis ont été exterminés est effrayante. Et c'est certain que si on réduit un génocide uniquement à des nombres de morts et à des discours racistes expliquant l'extermination, on n'arrive pas à exprimer. Donc c'est très important effectivement d'accéder à ces témoignages, même s'ils sont terribles. Et en fait, et on le voit dans le témoignage, il y a ce moment important aussi où la justice, parce que la justice, elle sert aussi à savoir. Et donc, c'est pour ça que la justice a un rôle très important, notamment dans les questions d'instruction. Et enfin, je voudrais juste dire quand même que pour défendre effectivement ces processus génocidaires, il faut s'attacher à la critique de l'État. C'est très important. Et la loi fondamentale de la République fédérale allemande, c'était quand même d'armer le citoyen face à l'État.
Armer le citoyen face à l'État et surtout armer le citoyen pour la compréhension du monde. Merci vivement Vincent Duclair de toutes ces explications et je renvoie à vos ouvrages, que ce soit au sujet de l'Arménie, au sujet du génocide des Tutsis au Rwanda. Merci vivement d'être venu dans le cours de l'histoire. Prochain épisode du cours de l'histoire, lèse-humanité et populicide, des crimes dans la Révolution française quand les hommes pourtant naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Ruben Carmazine, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Ségolène Roy et Maïgouen Guizou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.